Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Il y a 20 ans, feu Jean-Paul Belmondo était frappé par un accident vasculaire cérébral et il n'est pas le seul. Environ 150 000 personnes chaque année, un cas toutes les 4 minutes, une personne sur 5 subira un AVC au cours de sa vie. C'est la première cause de mortalité chez la femme et la troisième chez les hommes. Il est donc essentiel de prévenir, de détecter les premiers signes d'un AVC. Que faire dans les premières minutes? Comment se soigne-t-il? Quels sont les risques de récidive, les séquelles, la rééducation? Quel est l'impact de l'hygiène de vie sur sa prévention? Pourquoi est-il par exemple essentiel de préserver sa tension artérielle? Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 et en laissant un message ou une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin et romancier, quel est le menu de votre chronique? Alors voilà, je sens que ça va être saignant.
Oui, ce matin c'est coup de gueule contre les figures de proue du complotisme en France qui veulent guillotiner des médecins.
Ça promet. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Le service de Paris, bonjour.
Ne paniquez pas, restez en ligne.
C'est mon mari qui a 82 ans et ne contrôle plus son bras gauche.
Depuis quand il a les symptômes?
À peu près un quart d'heure.
Il parle normalement?
Non, il parle pas bien, justement.
Il y a une équipe du chômeur qui va arriver tout de suite, hein. On va la revoir.
En France, chaque année, 150 000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. Cette maladie est une urgence vitale. Sa prise en charge, une impitoyable course contre la montre.
Chaque minute va compter et chaque minute qui passe, c'est des neurones en moins et donc un cerveau qui sera plus fonctionnel comme avant.
Et pour répondre à vos questions sur l'accident vasculaire cérébral, nous accueillons trois invités. Bonjour professeur Pierre Amarinco.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à l'hôpital Bichat à Paris et vous venez de publier aux éditions du Rocher « Vaincre l'AVC », un ouvrage très pédagogique. Bonjour professeur Jean-Noël Fabiani.
Bonjour, bonjour Ali.
Vous êtes chirurgien cardiovasculaire, directeur de l'enseignement de l'histoire de la médecine à l'université Paris-Descartes. Bonjour Nathanaël de Rinxan.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste à France Télévisions et vous avez été victime d'un AVC le 1er mai 2019. Vous nous raconterez tout à l'heure les circonstances de cette attaque cérébrale. Alors qu'est-ce qu'un AVC, un accident vasculaire cérébral, en quelques mots, Pierre Amarinco? On l'appelle communément attaque cérébrale. Hein.
On l'appelle attaque cérébrale ou accident vasculaire cérébral. C'est la destruction d'une partie du cerveau qui est liée soit à une hémorragie, c'est-à-dire une artère qui éclate, le plus souvent sous l'effet de l'hyperpression, l'hypertension artérielle, soit le plus souvent, environ 80% des cas, ce qu'on appelle une ischémie cérébrale, c'est-à-dire qu'une artère se bouche à cause d'un caillot et le territoire qui est irrigué par cette artère devient nécrosé, ou en tout cas abîmé, et tout l'enjeu, c'est de déboucher l'artère le plus vite possible.
Et il s'agit donc d'une urgence médicale absolue. Quel est le risque? Quels sont les risques?
Les risques sont les séquelles de l'AVC.
Et le décès d'abord, évidemment.
Le décès, oui. Le décès. Immédiatement, le risque de décès n'est pas important. Immédiatement, c'est surtout le handicap. Le décès, ça survient le plus souvent dans les mois qui suivent. On estime qu'environ 10% des gens décèdent dans les jours suivants. Mais surtout, c'est le handicap qui est un problème.
C'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte?
La première cause de handicap acquis chez l'adulte. C'est un problème important puisqu'environ 600 à 700 000 familles sont concernées par l'AVC actuellement en France.
Alors, je ne le savais pas avant de préparer cette émission. Je ne savais pas qu'il s'agissait donc de la première cause de décès chez la femme et la troisième chez l'homme. Première cause de décès chez la femme.
Oui, oui. Quand on interroge les gens, en général, elles disent cancer du sein. Cancer du sein, c'est 12 000 femmes. L'AVC, c'est 18 000 femmes. Alors, bon, l'AVC, c'est surtout une pathologie des personnes âgées, mais pas uniquement, puisque en France, sur les 150 000 AVC, il y a environ 30 000 chez les sujets de moins de 55 ans. Donc c'est aussi une pathologie du sujet jeune, et donc nous sommes tous concernés par l'AVC. Vous avez rappelé le chiffre, une personne sur cinq dans sa vie aura un AVC dans sa vie.
Nathanaël de Rinxan, que vous est-il arrivé le 1er mai 2019 ?
Je buvais un verre tranquillement sur une terrasse avec des amis et subitement j'ai vu mes amis paniquer et me regarder de manière un peu interloqué, ils ne savaient pas si je faisais une grimace pour les faire rire ou si j'avais un vrai problème.
Qu'est-ce qu'ils ont vu exactement?
Ils ont vu mon visage se déformer, en fait, la partie gauche se déformer. Et ma compagne Caroline connaissait avec certains de mes amis les signes justement significatifs de l'AVC. Ils ont tout de suite appelé les pompiers. Et moi j'étais en panique, je ne comprenais pas du tout pourquoi ils appelaient les pompiers. J'avais absolument pas mal, j'avais aucun problème. Ma seule préoccupation, c'était d'aller chercher mes chaussures que j'avais laissées dans le vestiaire de mon club de sport et partir dîner avec mes amis et trouver un bon restaurant. C'était vraiment... Moi, je me rendais compte de rien. Et en fait, je me suis rendu compte de rien. Je suis parti, quoi, tout simplement. J'ai pas un souvenir douloureux de mon AVC. Je veux dire, franchement, j'ai plus un souvenir de... Je me suis endormi, je suis parti tranquillement. J'ai vaguement rouvert un œil, je pense, dans le camion de pompiers où là, j'avais des sensations un petit peu étranges. C'est-à-dire que ma compagne qui était à ma gauche, je l'entendais parler et je la cherchais en regardant par la droite et je la voyais pas et je sentais bien que je tenais c'est le métal froid du lit du brancardier, je le tenais de la main droite et je n'arrivais pas à sentir la même sensation de la main gauche. Après, j'ai compris qu'en fait, j'étais hémiplégique et je suis resté hémiplégique pendant un certain temps. Puis je suis arrivé à l'hôpital Saint-Denis, dont le nom m'échappe. Hein, à l'instant, ils ont été merveilleux. Exactement. De La Fontaine, ils ont été merveilleux. Ils m'ont très bien, ils ont tout de suite identifié le problème. Je suis passé dans un tube. Je sais jamais si c'est l'IRM ou le scanner. Enfin bon, au bout d'un quart d'heure, je suis ressorti de là. Ils m'ont mis le produit efficace pour déboucher ce qui était donc une artère bouchée. Enfin, une artère ou j'avais un truc bouché dans le cerveau, quoi, dans la tête. Et c'est passé comme ça.
Pierre Amérinco, on le voit avec le témoignage de Nathalie de Rinxan, l'AVC, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein.
Absolument, c'est absolument le cas. Et ça frappe les gens de façon totalement inattendue. Et la difficulté de l'AVC, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte, notamment quand c'est le côté gauche du corps qui est touché, c'est-à-dire l'hémisphère droit, puisque ça croise dans le cerveau, parce qu'il y a un phénomène de négligence inhérent à l'AVC lui-même, et donc le sujet est paralysé, n'en est pas conscience, il ne sent pas non plus son hémicorps, il ne voit pas du côté gauche, d'où l'exploration du champ visuel vers le côté droit pour Monsieur de Rinxan. Voilà, donc on n'identifie pas toujours soi-même. C'est pourquoi il est très important que les gens soient formés aux symptômes d'AVC, car ils peuvent comme cela détecter les symptômes chez leurs proches, chez leurs collègues de travail. C'est essentiel.
Alors on l'a vu, on peut ressentir un manque de force motrice d'un côté. Tout d'un coup, on ne peut plus bouger le bras ou la jambe d'un côté du corps. On ne peut plus contrôler son bras ou sa jambe. Il s'agit, Nathalie de Rinxan l'a dit, d'une hémiplégie. Cela peut concerner également un seul membre, la main par exemple. Je suis en train de tenir la télécommande dans la main et soudain elle tombe et je n'ai plus de force dans la main. J'essaye de la ramasser et je n'y arrive pas. Ça, c'est un signe qui doit alerter.
Oui, tout symptôme déficitaire, c'est-à-dire que on manque de force, on manque de sensibilité, on ne voit pas d'un côté, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à s'exprimer, à trouver les mots, ou bien on marche d'un coup comme une personne ivre. Tous ces symptômes-là doivent alerter et faire appeler le 15. S'il y a un doute, il faut toujours appeler le 15, parce qu'on vous rassurera ou au contraire on vous dira, on vous envoie une voiture.
Parfois l'AVC se manifeste par la bouche de travers, sans forcément observer un manque de force dans les membres.
Oui, ça peut. Tout dépend de l'étendue de l'AVC. Si ça touche juste la partie qui commande la face, ou juste la partie qui commande la main, ou qui commande le pied, eh ben ça sera un déficit à cet endroit-là. C'est toute la difficulté.
Et puis la victime de l'AVC ne peut plus exprimer les mots qu'il a dans la tête ou qu'il veut communiquer. Il dit un mot pour un autre, il déforme les mots, il articule mal.
Ça, c'est l'aphasie, c'est quand ça touche l'hémisphère gauche, c'est-à-dire le côté opposé à Monsieur de Rinxan. Et là, c'est la zone de langage dans la région temporale ou frontale.
Le professeur Marinko a dit quelque chose de très important. Il faut appeler le 15. Il faut surtout pas. Moi, parmi les très très bons réflexes de mes potes et de ma compagne, ça a été d'appeler justement le 15 et de ne surtout pas tenter de dire tiens, on va le mettre dans la bagnole, on va l'emmener à l'hôpital, parce que le 15, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pas précipités. C'est urgent, mais ils sont pas précipités. Ils ont cherché l'endroit où il y avait le bon appareil pour traiter ce genre de situation, cet AVC, et où il y avait de la place. Voilà. Et ça, c'est essentiel.
Professeur Jean-Noël Fabiani, il s'agit donc d'une course contre la montre. Qu'est-ce qui se passe une fois arrivé aux urgences chez le patient atteint d'un AVC ?
Alors, eh bien, évidemment, il faut falloir s'en occuper le plus vite possible, à partir du moment où les conditions sont rassemblées pour qu'on puisse lui proposer une thrombolyse.
Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors là, il y a plusieurs types de thrombolyse. Ce sont pas tellement les chirurgiens qui s'en occupent justement, mais soit on donne un médicament dont le but est de dissoudre en quelque sorte le caillot qui s'est formé, soit maintenant on peut même, avec un cathéter, aller retirer véritablement le caillot qui est parti ou qui s'est formé au niveau de l'artère du cerveau. Ça c'est les deux possibilités qu'on peut faire le plus vite possible. On sait que chaque minute, on exagère un peu en disant chaque minute, mais en tout cas chaque heure, eh bien c'est du cerveau qui risque de disparaître, et il faut aller le plus vite possible. Évidemment, c'est vrai dans toutes les revascularisations, quelles qu'elles soient, que ce soit le cœur, que ce soit le cerveau, c'est le même problème.
Et si on habite dans une zone éloignée d'une unité neurovasculaire, professeur Amarenko,
on appelle le 15 et le 15 dépêchera un hélicoptère s'il le faut. C'est sûr que on n'est pas tous égaux vis-à-vis de du service d'urgence où on doit aller, puisque plus on est éloigné, plus ça peut prendre du temps. Mais disons qu'on vit en France et qu'en France, on fait quand même tout ce qu'on peut pour aller le plus vite possible.
Le professeur Amarenko me le retire de la bouche. On n'est pas tous égaux devant l'AVC. Faut être honnête. Hein, les gens qui sont dans des zones géographiques éloignées des hôpitaux et des hôpitaux qui savent traiter les AVC ne sont pas favorisés.
Et que faire si on est seul ? Vous avez eu la chance d'être entouré, Nathaniel de Ringson.
Et moi, c'est rétrospectivement, c'est ce qui m'a le plus fait frissonner. C'est quand, on vous soigne, machin, ça se passe bien, vous allez dans votre chambre, vous dormez très bien. Le lendemain, on dit, bon, ben maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Et parmi les discussions que j'ai eues avec les médecins qui m'ont soigné, c'est de me dire, j'aurais dit, j'étais surpris, j'ai pas eu mal. Et un AVC, ça fait pas forcément mal. Je sais pas si un AVC fait parfois mal. Enfin, le mien faisait absolument pas mal. Il m'a dit, ça aurait pu vous arriver devant la télé, vous regardez une émission sur France Télévisions, par exemple, et vous vous endormez, et la nuit, vous avez envie de vous réveiller pour aller aux toilettes, et en fait, vous êtes endormi, et vous avez fait un AVC, et vous pouvez plus bouger. Et là, ça m'a assommé.
Rétrospectivement, oui. Professeur Amarenko, si on est seul, qu'est-ce qu'on fait ?
Si on est seul, c'est tout le problème. Il va falloir maintenant, avec les nouvelles technologies, que l'on puisse détecter les AVC à la maison. Il y a des gens qui travaillent là-dessus très bien, des gens très intelligents. Mais c'est de la science-fiction pour l'instant. C'est vrai que si l'on est seul, il faut avoir des téléalarmes, il faut être connecté. Il y a que ça qui est possible. Si on est seul et qu'on se rend compte que quelque chose ne va pas, à ce moment-là, il faut aller sonner chez le voisin. Il faut aller, si on peut le faire, ou voir la concierge. Il faut de toutes les façons essayer de contacter une personne. Je voudrais revenir juste sur l'éloignement, parce que désormais on a la télémédecine. Quelqu'un qui se trouve au fin fond de la Creuse, il va à son hôpital le plus proche, qui est connecté en télémédecine avec l'unité neurovasculaire référente, et on peut traiter la personne à distance. On peut lui passer le médicament thrombolytique qu'a eu Monsieur de Ringson. On peut le faire dans cet hôpital de campagne, si j'ose dire, grâce à l'examen du patient par télémédecine, l'examen de son scanner, parce qu'un scanner peut être fait localement. Et avec la télémédecine, on améliore quand même beaucoup l'accès aux soins.
Alors, nous recevons beaucoup de questions sur l'accident ischémique transitoire. Quelle est la différence avec un AVC ?
Alors, différence importante parce que les symptômes ne durent pas. C'est-à-dire, Monsieur de Ringson, par exemple, au bout de 10 minutes, à l'arrivée des pompiers, il n'aurait plus rien eu. L'urgence est la même. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure opportunité d'éviter l'attaque cérébrale suivante. C'est-à-dire que la personne va immédiatement dans une unité d'AVC ou une clinique d'AIT, parce qu'il y a des cliniques d'AIT qui se sont montées maintenant.
AIT, accident ischémique transitoire,
donc transitoire parce que ça dure pas. Et ça permet de trouver immédiatement la cause, de la traiter. Et ainsi, on évite dans 80% des cas l'AVC, ce qui est remarquable.
Professeur Fabiani, quelle est la différence entre un AVC et une rupture d'anévrisme ?
Entre un AVC et une rupture d'anévrisme, eh bien, disons que l'accident vasculaire cérébral, eh bien, peut être lié aussi à une rupture d'anévrisme, et ça entraîne à ce moment-là une hémorragie. intracérébrale, la rupture d'anévrisme intracérébral, eh bien c'est du sang à ce moment-là qui va dilacérer les neurones et qui va détruire la matière cérébrale, ce qui est un accident très très grave, évidemment. Je revenais, si vous le permettez, un instant sur l'AIT. L'AIT, c'est quelque chose qui, très souvent, est soumis au médecin qui doit essayer de le retrouver, parce que là on a l'air de dire que c'est une évidence, mais parfois c'est le médecin qui doit chercher l'AIT parce que le malade l'a oublié ou a oublié la succession d'AIT. Par exemple, des choses très simples comme je me rase et puis au moment où je passe sur ma carotide en me rasant, ma main tombe. Ça récupère tout de suite. Il faut parfois le retrouver chez le patient. Et c'est pas si facile que ça de retrouver une série d'AIT. Et comme vient de le dire Amarinko, c'est évidemment d'une haute valeur sémiologique. Voilà.
Nathalie de Rinxan, vous allez devoir nous quitter hélas dans quelques minutes. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Quel est le traitement que vous suivez? Et est-ce que votre hygiène de vie a été affectée par cet accident vasculaire cérébral?
Alors, j'avais une hygiène de vie irréprochable au moment de mon accident vasculaire cérébral. Donc, je fume pas, je me drogue pas.
Vous marchiez 50 km par semaine.
Exactement.
À l'époque.
Je fais d'ailleurs beaucoup de marches, de golf en l'occurrence. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, la question était de savoir pourquoi j'ai fait cet AVC. On a cherché. Très certainement, c'est un problème d'arythmie cardiaque. Très certainement lié à on vous interroge sur votre vie. Je leur ai expliqué, je faisais télématin depuis 15 ans, je me levais à 2h30, 3h du matin, mais vous inquiétez pas monsieur le médecin, je faisais la sieste la journée, et là vous découvrez qu'en fait la sieste la journée c'est pas du tout réparateur, et que dormir 2-3 heures par nuit tous les jours du lundi au vendredi, en fait c'est compliqué pour la santé d'un homme. Et alors je ne dis pas que c'est ça, simplement ça a pu faire partie des éléments déclencheurs. Ce jour-là j'avais fait télématin, j'avais enchaîné une journée 1er mai, c'est la fête, hein, on va en famille, on va faire du sport, on voit les enfants, et c'est ce qui a pu déclencher peut-être, voilà. Et à l'arrivée j'ai ma vie aujourd'hui, c'est la même qu'avant, avec des anticoagulants et je suis pas inquiet quand je m'endors le soir, je suis ravi de me réveiller le matin, mais je vais faire attention encore plus, et surtout encore plus attention aux autres, parce que l'élément le plus important, ce qu'il faut le dire, c'est que le premier remède contre l'AVC, c'est l'autre. C'est le collègue de bureau avec qui vous passez le plus clair de votre temps, c'est votre épouse, c'est vos enfants, c'est vos parents, c'est les gens dans la rue qui vont dire « Tiens, putain, le mec, il a une drôle de tête, pourquoi il fait la grimace ?» Ou la dame qui vous vend du pain, « Non, je comprends pas ce que vous me dites, il y a un souci. » Il faut être à l'écoute des autres. Voilà, c'est un remède essentiel.
Message essentiel. Sur le stress et sur le manque de sommeil, beaucoup de questions dans ce sens-là, professeur Amarinko. Est-ce que ça peut être une cause d'AVC?
Non, c'est pas une cause. Ça peut être un facteur favorisant dans, disons, la part attribuable, c'est environ 5%. Donc, vous voyez, c'est alors que l'hypertension artérielle, c'est 40%. Donc c'est vraiment différent. Il arrive fréquemment que l'on ne trouve pas, notamment chez le sujet jeune, que l'on ne trouve pas de cause à l'AVC. Ça peut monter jusqu'à 40-60% des cas.
C'est la faute à pas de chance?
C'est la faute à quelque chose que l'on n'a pas trouvé, d'accord. La bonne nouvelle, quand on trouve pas la cause, c'est que le risque de récidive est extrêmement faible, moins de 1% par an, et que ce risque est encore diminué par les traitements que l'on a. Préventif que l'on donne. Mais il est vrai que parfois on ne trouve pas la cause. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas la chercher. Il faut la chercher intensément, de façon très attentive, cardiaque, artérielle, sanguine. Toutes ces causes-là doivent être recherchées.
Question de Baptiste Beaulieu.
Oui, tout à l'heure vous parliez du handicap et c'était très intéressant parce que moi en tant que médecin généraliste, c'est ce que je constate tous les jours, c'est que le problème de l'AVC, effectivement, c'est moins le décès que le handicap qui suit dans la plupart des cas. Et là, je voulais pointer du doigt le rôle des aidants, et particulièrement des aidantes, parce qu'en France, 8 aidants sur 10 sont des aidantes, et qui ont leur vie extrêmement impactée aussi par l'AVC de leur compagnon, et tout ce qui s'ensuit en termes de logistique à mettre en place à la maison.
Oui, il est vrai que l'AVC, ça impacte la famille en fait entière et les amis. C'est un bouleversement surtout lorsqu'il en résulte un handicap. Heureusement, la plupart des gens récupèrent, environ 60% récupèrent très correctement de l'AVC, mais il y a 20 à 30% des gens qui ont un handicap plus ou moins sévère, et là, en effet, ça impacte la famille, ça impacte les relations avec l'environnement, et il est très important que les gens comprennent qu'il faut que la personne retrouve l'estime de soi, retrouve sa place dans la famille, dans la société, et c'est là le rôle des aidants aussi, beaucoup d'indulgence, beaucoup de bienveillance, tout ça c'est très important.
Nathaniel de Rinxon, sur la question des aidants.
Alors, moi, j'ai le bonheur de n'avoir absolument aucune séquelle de mon AVC, donc je vis normalement. J'ai découvert en fait un monde justement avec cette histoire médiatisée, parce que j'ai décidé d'en parler justement pour sensibiliser et expliquer aux gens quel pouvait être leur rôle. Et là, j'ai reçu une tonne de courriers, de messages justement de gens qui, alors il y a ceux qui étaient touchés par mon histoire, bon, c'est très gentil, je les remercie, mais il y a ceux qui ont appris et justement qui ont, notamment je me souviens d'une dame qui était en déplacement en Espagne et qui a dit, j'étais dans mon hôtel dans le sud de l'Espagne et je me suis retrouvé dans la glace en regardant le soir et j'ai vu que mon visage était déformé. Je suis descendu, j'ai pensé à ce que vous aviez dit, je suis descendu à l'accueil de l'hôtel et là ils ont appelé les médecins espagnols et cette dame alors j'ai pas la suite de l'histoire, mais visiblement ça s'est bien passé pour elle vu qu'elle a pu m'écrire ça m'a fait chaud au cœur.
Christine nous écrit: mon mari comédien était victime d'un AVC il y a bientôt 8 ans, plusieurs jours avec un pronostic vital engagé grâce aux soignants, médecins, infirmiers, orthophonistes, psychologues, grâce à la rééducation, à la kiné, il a retrouvé une autonomie grâce à son entourage et grâce à sa volonté. Merci beaucoup Nathaniel de Rinxon d'être passé ce matin dans Grand Bien Vous Fasse. Un dernier message.
Oui, c'est bientôt la journée mondiale de l'AVC. De, je ne sais plus, c'est le 29 ou le 30 octobre.
29 octobre.
Voilà, donc c'est l'occasion encore une fois d'en parler. Puis vraiment, regarder les autres. Quoi. C'est
le message essentiel que vous nous transmettez ce matin. Merci beaucoup. Dans un instant, nous évoquerons le soin et la prévention de l'AVC. Vous retrouverez également la chronique de Baptiste Beaulieu. Et on écoute Vanessa Paradis, il y a...
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
Vanessa Paradis, il y a...
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur... sur France Inter.
10h31 et nous attendons ce matin toutes vos questions et témoignages sur l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, au 01 45 24 7000 ou en laissant un message ou une note vocale sur l'appli France Inter.
Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à écrire votre nom sur un formulaire. Qu'est-ce qui se passe quand trois fois dans... vous laissez tomber un papier, un stylo et une cuillère, vous dites, bon, il y a quelque chose que je maîtrise plus, quoi.
Les symptômes de l'AVC peuvent être très variés. Tout dépend de la zone lésée dans le cerveau. Le plus souvent, il s'agit d'une paralysie du visage, une faiblesse d'un côté du corps ou une difficulté de langage. Mais cela peut aussi être des troubles de la vision, une perte d'équilibre, une confusion ou des pertes de mémoire. Voilà pour les signes les plus fréquents. Mais la complexité du cerveau échappe parfois même aux médecins.
Rappel des signes les plus fréquents de l'AVC dans Quête de santé en juin 2016. Un auditeur, Christine, tiens, une auditrice nous écrit « Mon frère a fait un AVC, il avait des nausées et des vertiges, il ne tenait pas debout, il a été hospitalisé 3 jours dans le service ORL avant que le début de la paralysie du visage révèle son AVC. On n'est donc pas dans les symptômes habituellement décrits ?»
En professeur effet.
Pierre Amarenko, professeur, neurologue.
Oui, en effet, si, quand même, l'instabilité de la position debout, ce que je disais tout à l'heure, la personne qui peut marcher comme une personne ivre, c'est justement ce qu'a dû vivre cette personne avec le vertige. Et ce sont les structures postérieures du cerveau, qu'on appelle le cervelet, qui sont touchées dans ce cas-là.
Beaucoup de questions sur les grandes causes de l'AVC. 4 grandes causes d'accident vasculaire cérébral. D'abord, l'athérosclérose. Expliquez-nous en quelques mots, pour Pierre Amarenko. Il s'agit d'une maladie des grosses artères qui irriguent le cerveau.
Voilà, c'est...
Pour le dire vite.
L'athérosclérose, c'est une maladie qui touche la paroi de l'artère, c'est-à-dire une sorte de plaque de graisse qui se forme dans la paroi et qui peut évoluer jusqu'à obstruer l'artère. Et ultimement, il y a un phénomène d'ulcération sur cette plaque avec un caillot qui se forme dessus, et c'est ce caillot qui finit par boucher l'artère ou qui part dans le cerveau, donner ce qu'on appelle une embolie cérébrale. C'est la même maladie qui touche les coronaires et qui donne l'infarctus du myocarde. Donc infarctus du myocarde, infarctus cérébral, finalement c'est le même type de maladie, l'athérosclérose, qui est liée au cholestérol, qui est liée au
mauvais
tabac,
cholestérol.
Le mauvais cholestérol, au tabac, à l'hypertension artérielle et au diabète.
Professeur Jean-Noël Fabiani, quelles sont les causes cardiaques de l'AVC? Je pense à l'arythmie cardiaque.
Alors bien entendu, il y a l'arythmie cardiaque, qui est une cause très très connue, très habituelle et surtout très fréquente, puisque il y a plusieurs millions de personnes qui sont atteintes d'arythmie cardiaque en France. Donc et ceci nécessite absolument un traitement préventif, qui est le traitement anticoagulant. Il y a aussi d'autres causes qui sont comme par exemple certaines communications anormales entre les oreillettes qui favoriseraient des caillots qui viendraient des veines pour passer dans les artères. Et puis il y a aussi des dépôts qui se situent au niveau des valves du cœur ou bien des dépôts qui se situent au niveau des parois des artères, de l'aorte elle-même, bien que ce soit à cet endroit, l'aorte ascendante assez rare, mais en tout cas sur les artères qui montent au cerveau, il y a, comme vient de le dire Amarenko, il y a vraiment des dépôts très importants qu'il faut parfois aller enlever de façon préventive, de façon à éviter qu'ils ne se produisent l'accident vasculaire cérébral.
Alors, il faut rappeler, professeur Amarenko, que l'âge reste le principal facteur de risque.
Oui, bon, comme on n'y peut rien, ça sert pas à grand chose d'en parler, mais
merci.
Non, mais c'est voilà. J'ai dit tout à l'heure quand même que 30 000 cas d'AVC survenaient chez les sujets de moins de 55 ans. Il est clair que la moyenne d'âge, si on fait une moyenne, c'est 78 ans. Donc c'est vraiment une pathologie plus de la personne âgée. Mais comme vient de le dire Jean-Noël Fabiani, l'arythmie cardiaque à ces âges-là est très prévalente, très fréquente. Et si on peut dire quelque chose aujourd'hui, ceux qui ont, qui prennent leur pouls et qui sentent que le pouls est arythmique, c'est-à-dire qu'il n'est pas régulier, à ce moment-là, il faut consulter pour faire un électrocardiogramme, car le traitement anticoagulant évite 80% des AVC. Donc ça, c'est majeur comme message.
Question de Marc, pourquoi l'hypertension artérielle est-elle un risque majeur d'AVC ?
Alors, pour deux raisons. D'une part, ça favorise la maladie athéroscléreuse, dont on vient de parler. Et d'autre part, ça favorise la maladie des petites artères intracrâniennes. C'est-à-dire, sous les à-coups hypertensifs chroniques pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans, les petites artères qui sont soumises à ces à-coups s'épaississent à un point tel que de temps en temps, elles peuvent se boucher, ce qui donne un petit infarctus cérébral, dont la multiplicité peut conduire à la démence vasculaire, ou bien encore, la petite artère a des phénomènes inflammatoires dans son épaississement qui conduisent à la rupture de l'artère et à l'hémorragie cérébrale cataclysmique.
Pourquoi l'obésité, c'est une question qui revient pas mal ce matin, pourquoi l'obésité et le surpoids sont-ils des facteurs de risque ?
Alors, l'obésité et le surpoids, c'est un facteur de risque majeur, puisque c'est la part attribuable, c'est 25%, hein, comparativement à 40% pour l'hypertension artérielle. Donc, c'est très important. Pourquoi ? Parce que l'obésité favorise l'hypertension artérielle, favorise aussi l'hyperinsulinémie. C'est un peu compliqué, mais l'insuline qui est sécrétée par le pancréas a pour but de maintenir la glycémie à 1 gramme par litre. Et le problème, c'est que l'insuline adore la graisse et elle se fixe d'abord sur la graisse. Donc le pancréas, qui normalement sécrète 60% de sa capacité, il va jusqu'à 100%. Et lorsqu'il y a besoin de plus, parce qu'il y a trop de graisse à saturer, à ce moment-là, c'est diabète, parce que la glycémie augmente. Il n'y a plus assez d'insuline pour maintenir à 1 gramme par litre la glycémie, ou à 5 millimoles. C'est le diabète, et le diabète, c'est un facteur majeur d'AVC et de bien d'autres choses, problèmes cardiaques, rénales, ophtalmologiques.
Et le diabète, justement, augmente le risque de récidive de l'AVC.
Absolument, le diabète augmente le risque de récidive de l'AVC. On estime que 25% des patients qui ont un AVC sont diabétiques, donc c'est... Vous voyez, c'est très important. Il y a certains pays où ça va jusqu'à 40%. Hein. Le diabète, en effet, augmente considérablement le risque de récidive.
Beaucoup de questions également dans ce sens. Quelle alimentation pour réduire le risque d'AVC ?
Alors, avant l'AVC, hein, il y a une étude récente qui est parue, une grande étude épidémiologique, qui a montré entre viande rouge, viande blanche, poulet et poisson, quelle était finalement la meilleure alimentation ? Eh bien, la tendance est que manger du poisson et du poulet diminue d'environ 15% le risque d'AVC, ce qui ne veut pas dire qu'il faut supprimer la viande rouge, bien entendu.
Il faut privilégier un régime de type méditerranéen, à base de végétaux, de céréales, d'huile d'olive.
Bien entendu, il faut manger les 5 fruits ou légumes par jour classiques, pas seulement d'ailleurs pour diminuer l'AVC, mais pour diminuer bien d'autres choses, le cancer et autres.
Puis il faut réduire les apports en sel.
Alors ça, c'est vous touchez un point essentiel. L'apport en sel, ça c'est une catastrophe mondiale. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'AVC en Chine, presque 50% des gens ont des AVC en Chine. Une personne sur deux, c'est plus une personne sur cinq dans sa vie. C'est parce qu'ils mangent beaucoup de sel. Au Japon, c'est pareil. Au Japon, ils ont fait beaucoup d'efforts pour diminuer l'alimentation salée, parce que vous savez qu'il y a la miso soupe et il y a beaucoup, beaucoup de consommation de sel, notamment dans le nord du Japon. Ils ont diminué cette consommation de sel et ils ont eu beaucoup moins d'hémorragie cérébrale. Avant, au Japon, c'était 50-50, hémorragie cérébrale, infarctus cérébral. Maintenant, ça devient plutôt comme les Européens, 70% versus 30%. C'est l'apport en sel. C'est pareil au Portugal, on mange beaucoup de morue salée, voilà. C'est pareil en Afrique. Les hypertensions artérielles chez les Africains sont catastrophiques. Dans mon service, je vois des gens 35 ans avec une hémorragie cérébrale, des gens africains, parce qu'ils mangent trop salé. C'est très important le sel. Donc il faut diminuer nos apports en sel. Il ne faut pas ressaler. Il faut faire attention à toutes les alimentations préparées en conserve, etc. C'est plein de sel. Donc voilà, il faut faire très attention au sel. C'est bon le sel, mais il faut faire très attention.
Réduire les apports en sel et manger plus de bananes, peut-être riches en potassium. Cela peut réduire de 24% le risque d'AVC. C'est la conclusion d'une étude menée par les chercheurs du département santé de l'OMS et qui a été publiée dans le British Medical Journal.
Vous confirmez ? Bon, il faut se méfier de ces études d'association.
Observationnelles. Voilà.
observationnel. Bon, on peut toujours trouver des choses significatives à la marge. Je vous soupçonne d'aimer les bananes, c'est très bien, manger des bananes, mais manger aussi des pommes, manger aussi de tout autre fruit, parce qu'il y a des vitamines dans les fruits, c'est très bien, et ça évite les cancers. Et dans les bananes, il y a beaucoup de potassium, c'est pourquoi les joueurs de tennis mangent des bananes entre les jeux, parce que ça leur reconstitue les potassiums, ça évite les crampes.
Bonjour Robin, bienvenue.
Bonjour, merci de me prendre à l'antenne.
Vous êtes secouriste ?
Oui, c'est ça. Alors, je suis secouriste une bonne partie de l'année, je travaille en station de ski, donc je suis pisteur secouriste. Et puis donc le reste de l'année, je suis formateur en secouriste. Donc du coup, à la fois pour des professionnels et puis à la fois pour le grand public. Et c'est là-dessus que je voulais intervenir. Donc le grand public, j'entends en entreprise et ce qu'on appelle les sauveteurs secouristes du travail, qui sont de plus en plus formés. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je fais de la formation et on a donc, tous les deux ans un recyclage obligatoire à faire dans les entreprises. Donc on retrouve des groupes et régulièrement on a des retours d'expérience sur grâce à la formation, grâce au comme vous le disiez au début de l'émission, les gens qui sont de plus en plus alertes et arrivent à détecter des premiers signes. Et c'est des fois simplement le mal de tête. On a tous le mal de tête, mais des fois en disant tiens, est-ce qu'il n'y a pas un peu plus, on creuse, on peut poser les 2-3 questions indispensable, depuis combien de temps, exactement comment tu te sens, la sensation que ça fait. Et grâce à ça, les personnels appellent très rapidement, font 15, et du coup, on a une chaîne de secours qui se lance très rapidement et qui permet des retours qui sauvent la vie des personnes. Hein. Donc, du coup, mon appel était vraiment par rapport à la prévention liée à la formation. Et donc, plus on se forme et plus on a des résultats intéressants sur l'AVC et puis aussi sur l'arrêt cardiaque, bien sûr. Mais voilà, c'était un peu là-dessus.
Merci beaucoup, Robin, de nous inviter à nous former au secourisme, parce qu'on le sait, les premières heures sont absolument fondamentales. Robin parlait du mal de tête. Est-ce qu'un mal de tête violent, soudain, peut être le signe d'un AVC ?
Oui, en effet, le mal de tête, c'est extrêmement fréquent, bien entendu, mais la caractéristique, c'est la soudaineté et c'est le caractère inhabituel, inhabituellement violent de la céphalée qui doit inquiéter. Ça peut être une hémorragie cérébrale, ça peut être une hémorragie méningée, c'est la rupture d'anévrisme dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ce sont des... Mais le plus souvent, l'AVC se produit sans mal de tête, sans douleur, comme l'a signalé Nathalie de Rinxin.
Allez, il est temps. Merci beaucoup, Robin, de nous avoir appelé. Il est temps de retrouver la chronique. Alors voilà, de notre médecin romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard. J'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali. Je suis un peu en colère parce que je comprends qu'on puisse avoir peur de se faire vacciner ou qu'on doute de la philanthropie des laboratoires pharmaceutiques. Oui. Les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas philanthropes. Mon problème actuel n'est à aucun moment la crainte ou la défiance qu'éprouvent certains à l'égard du vaccin. Ma colère est dirigée vers les têtes de proue, des mouvements anti-vax et complotistes qui font leur beurre sur la crise et qui manipulent cette crainte et cette défiance. Qui par la vente d'objets anti-Covid, qui par la recherche d'une notoriété quelconque, qui par la promotion de son site internet de désinformation ou de son agenda politique, etc. Ces opportunistes utilisent nos angoisses comme un marchepied à lit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ces gens discutent tranquillement sur Twitter de la façon dont il faudra exécuter, oui, exécuter, les médecins quand la crise sera passée, parce que, oui, après tout, pour eux, on a massivement participé au complot. Ces têtes d'affiche du mouvement complotiste français appellent de leur vœu un procès international où comparaîtront les responsables de cette, ouvrez les guillemets, épidémie factice. Ils appellent ce procès Nuremberg 2. Nuremberg 2. Vous avez bien entendu, il se compare son honte aux résistants de 1945 et nous compare, nous, soignants, aux nazis. Non mais imaginez, ça fait 2 ans que tu te bats contre un virus qui endeuille les familles de tes patients, qui les jette dans la précarité sociale, des Covid longs ou la dépression, et les complotistes en chef, alors même qu'ils sont incapables de te donner la différence entre un infectiologue, un virologue et un épidémiologiste, viennent la bouche en cœur mettre du caca dans la tête des gens qui ont déjà peur avec, au choix, les discours suivants. Petit 1, ce virus n'existe pas. Petit 2, ce virus n'est pas plus mortel que la grippe. Petit 3, ce virus se traite très bien avec l'ivermectine et la vitamine D. Ben oui, mais qu'est-ce que je suis stupide, Aline, 2 ans d'enfer alors qu'il m'aurait suffi de prescrire des bains de soleil et un médicament contre la gale. Petit 4, les médecins complices sont, je cite ce message reçu à mon intention sur les réseaux, les putains de la République. Mais à quel moment, Ali, la vaccination est-elle devenue un vote d'adhésion à la politique catastrophique de nos gouvernements ? Oui, la santé publique et la politique sont intimement liées. Mais il y a des raccourcis qui sonnent comme des sorties de route. Et oui, les gouvernements ont une part de responsabilité majeure parce que, en perdant confiance envers eux, une part de la population a perdu confiance envers nous. Pourtant, les soignants de terrain n'y sont pour rien. Ils n'y sont pour rien. Je n'ai pas pris de vraies vacances depuis presque 2 ans, Ali, parce que j'ai l'impression d'abandonner mes patients au milieu d'une crise sanitaire effroyable. J'assure mes consultations habituelles, plus la vaccination Covid, et comme vous vous en doutez, rares sont les patients qui viennent juste se faire vacciner. On en profite toujours pour régler un ou deux petits problèmes médicaux en suspens depuis bien trop longtemps. Je suis comme beaucoup de soignants, je suis fatigué, je suis à bout. Je terminerai cette chronique par une réflexion adressée aux auditeurs. Si je croyais sincèrement, comme les têtes de proue complotistes qui rêvent de nous guillotiner prétendent le croire, qu'un complot était à l'œuvre pour tuer la moitié de la population mondiale et réduire l'autre moitié en esclavage, je serais debout sur des barricades et je me battrais de toutes mes forces. Je me contenterais pas d'être tranquillement derrière mon écran, les pieds dans mes chaussons, faisant mon beurre sur les peurs légitimes d'une population jetée dans la tourmente, tout en discutant entre charognards de la meilleure manière d'exécuter et de guillotiner les soignants qu'on applaudissait hier. Donc soit... Ils ne croient pas aux bêtises qu'ils instillent dans nos têtes et celles de nos patients, et ce sont des charlatans opportunistes. Soit ils y croient vraiment, et alors ce sont des guignols sans colonne vertébrale. Dans tous les cas, qu'ils nous fichent la paix et qu'ils nous laissent soigner.
La chronique de Baptiste Beaulieu. Et en dépit des messages parfois violents que vous recevez sur les réseaux sociaux, nous continuerons à vous accueillir dans cette émission. Messages parfois... Enfin, on peut le dire honteux.
Oui.
Passible peut-être de poursuites judiciaires, tant ils sont violents.
Mais en tout cas, c'est pas le temps d'aller porter plainte à chaque fois.
Merci pour cette chronique de salubrité publique. Dans quelques instants, nous verrons comment se soigne un accident vasculaire cérébral et comment le prévenir. En attendant, on écoute Parcels qui interprète Free. Ça fait du bien le lundi matin. Parcels qui interprétait Free.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h51 et nous répondons à toutes vos questions et témoignages sur l'AVC. Écoutons une note vocale déposée par Dominique de Brest sur l'appli France Inter.
Oui, bonjour. Je voulais vous parler de la place du déni dans l'AVC. Mon père a fait un AVC il y a 12 ans et il a fait un gros déni à la suite qui l'a empêché en gros de se soigner. Voilà. Et moi-même, j'ai fait un AVC il y a quelques mois, et pendant un mois et demi, je n'ai pas voulu voir cette situation, et il y a eu une forme aussi du déni. Alors, quelle est la place du déni dans l'AVC? Voilà, merci.
Réponse du professeur Pierre Amarinco, auteur de « Vaincre l'AVC ».
C'est un problème assez fréquent, c'est la négligence de l'AVC lui-même. C'est souvent lié à la partie du cerveau qui est touchée, mais pas que. Parfois, il y a des dépressions importantes qui surviennent en post-AVC, qu'il faut savoir détecter, traiter. On peut surmonter tout cela. Le message aujourd'hui, c'est de dire que tout peut être surmonté. Il faut le regarder en face, le traiter, en parler avec son neurologue, son spécialiste d'AVC. Et tout peut avoir une solution.
Et vous me disiez, hors antenne, que 80% des AVC peuvent être évités.
Oui, quand on dit qu'une personne sur 5 aura un AVC dans sa vie en France, il faut dire immédiatement que 80% des AVC peuvent être évités.
De quelle façon ?
Et pour cela, il faut connaître ces chiffres de pression artérielle, ces chiffres de cholestérol, ces chiffres de glycémie, car en contrôlant cela, plus en évitant de fumer, du tabac ou du cannabis, et en évitant le surpoids, avec tous ces moyens-là, en faisant de l'exercice physique régulier, avec tous ces moyens-là, on peut éviter 80% des AVC. Sur le site du fonds Vaincre l'AVC, que j'ai créé avec mon épouse il y a 2 ans, nous avons un algorithme qui permet, c'est-à-dire un questionnaire, qui permet aux gens, en fonction de ces chiffres, d'évaluer leur risque d'AVC. Ils reçoivent un compte-rendu qui leur permet de savoir s'ils sont ou non à risque d'AVC. Quelques conseils également qui leur sont données de façon personnalisée. Ça, c'est un point majeur parce que on peut éviter 80% des AVC. Mmh. Et pour cela, il faut aller chercher les gens qui sont à risque.
Professeur Jean-Noël Fabiani, Jean nous écrit qu'il a subi une chirurgie carotide pour éviter une récidive. Comment se déroule cette chirurgie carotide en quelques mots ?
En quelques mots, le dépôt d'athérosclérose dont on vient de parler, qu'il faut essayer de prévenir au maximum, mais ce dépôt peut se faire toujours presque au même endroit, c'est-à-dire au niveau du cou, au départ de la carotide interne, là où elle bifurque avec la carotide externe. Alors il faut aller enlever, gratter en quelque sorte ce dépôt au niveau de cette bifurcation carotidienne. Ça peut se faire soit directement chirurgicalement avec une petite ouverture et le chirurgien ouvre l'artère et enlève en quelque sorte ce dépôt, ou bien c'est possible maintenant dans certains cas, bien que personnellement je n'ai pas trop l'expérience de cela, on peut utiliser sans ouvrir un ballonnet qui permet d'aller mettre en place un stent, d'abord écraser puis mettre en place un stent de façon à éviter que ce dépôt ne puisse se détacher et aller vers le cerveau pour entraîner une embolie cérébrale et donc un AVC.
Précision, professeur Amarinco.
Non, tout a été dit. C'est vrai qu'en général, on préfère la chirurgie au stent, mais voilà, enfin, moi en tout cas.
En tout cas, vous êtes très très sévère sur la prise en charge de l'AVC en France par rapport à l'Allemagne, par exemple.
Par rapport à l'Allemagne, qu'est-ce qu'on peut dire?
D'autres pays comparables.
D'autres pays comparables, oui. C'est-à-dire qu'en France, la difficulté surtout, c'est la prise en charge du handicap post-AVC. Et ça, c'est un énorme problème, car nous avons des patients qui arrivent en unité neurovasculaire, où on les prend en charge pendant quelques jours, et ensuite, il faut les envoyer en rééducation. Et là, les difficultés commencent, les services de rééducation ont le choix. Ils peuvent dire, celui-là, je le prends, celui-là, je le prends pas. Et ça, c'est un vrai scandale pour moi. C'est quelque chose qui n'arrive pas en Allemagne, car tout le monde a sa chance de pouvoir partir en rééducation là-bas. Et en France, ça fait 40-50 ans que cette affaire dure, il faudrait maintenant que les choses changent.
Alors j'aimerais qu'on réponde de façon brève à toute une série de questions qui nous arrivent en masse ce matin. Nathalie qui nous écrit, j'ai lu un article qui parlait de l'AVC de la femme, les signes sont-ils les mêmes?
Exactement les mêmes.
Très bien. Une question sur les apnées du sommeil. Est-ce que les apnées peuvent provoquer des AVC ?
Eh bien oui, l'apnée du sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Environ 60% des gens qui ont un AVC ont des apnées du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est au cours de la nuit. On peut avoir des apnées qui durent plusieurs secondes, jusqu'à 10, 20, 60, 80 apnées par heure. Et à ce moment-là, ça augmente la pression artérielle, ça diminue la concentration d'oxygène dans le sang et ça favorise par cela la survenue d'AVC. Donc il faut soigner l'apnée du sommeil, c'est très important. Cette médecine-là a explosé au cours des dernières années. Il faut réellement consulter lorsqu'on a des apnées du sommeil ou lorsqu'on se réveille fatigué le matin et lorsque on est somnolent dans la journée.
Florent nous demande si les migraineux ont plus de risques d'avoir un AVC.
C'est débattu. Il y a un risque qui est peut-être un tout petit peu plus important, mais c'est encore une fois c'est observationnel. Et surtout, l'AVC déclenche chez le migraineux déclenche souvent la migraine. Donc on ne sait pas de l'œuf ou la poule qui a été le premier.
Christophe, la pilule contraceptive peut-elle favoriser les AVC? Je pense que Christophe pense aux pilules contraceptives de dernière génération, de troisième génération.
Alors ça augmente un tout petit peu le risque d'AVC. Mais il faut bien considérer aussi que monter dans un train, ça augmente le risque d'avoir un accident. Donc le risque est tellement faible, si vous voulez, que il faut prendre la pilule, bien entendu. Il n'y a pas de contre-indication, sauf l'association tabac, pilule, migraine. Et le tabac est un point majeur. Les femmes, en France notamment, fument beaucoup trop par rapport aux autres pays.
Un AVC peu grave est-il prédictif d'un autre plus grave ?
Ah oui, bien entendu, c'est le problème de l'AIT, l'accident ischémique transitoire, qui est pas grave du tout, puisque voilà, mais c'est prédictif d'un AVC. Dans 15% des cas, on fait un AVC dans les 3 mois.
Vos conseils fondamentaux, votre commandement numéro 1, on arrive au terme de cette émission.
Mon commandement numéro 1, c'est en cas d'AVC, appelez le 15, et on peut prévenir 80% des AVC. Testez-vous, faites le questionnaire en ligne sur vaincrelavc.org et vous verrez que vous pourrez éviter l'AVC.
On mettra le lien sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup, professeur Jean-Noël Fabiani, d'avoir participé à cette émission. Et vous pouvez lire avec profit ce livre très pédagogique, vraiment, « Vaincre l'AVC » du professeur Pierre Amarinco. Merci. Et c'est publié aux éditions du Rocher. Dans un instant, Nagui et sa bande originale.